Chapitre 6. La haine. Un matin, la crise dont Madame Raquin était menacée a eu lieu. Sa langue est devenue de pierre, ses mains et ses pieds sont devenus raides. Elle était frappée de mutisme et d'immobilité. Thérèse et Laurent ont compris qu'ils n'avaient plus qu'un cadavre devant eux, un cadavre qui les voyait et les entendait, mais qui ne pouvait plus leur parler. À partir de ce jour, les époux ont passé des soirées cruelles en face de la vieille qui ne parlait plus. Depuis que Madame Raquin était infirme, il fallait la soigner comme si c'était un enfant. Le matin, Laurent la levait, la portait dans son fauteuil, et le soir, il la remettait sur son lit. Il roulait aussi son fauteuil. Thérèse, elle, l'habillait, la faisait manger et cherchait à comprendre ses désirs. Les amis de la famille faisaient les éloges des époux. Les réceptions du jeudi continuaient et l'impotente y assistait. On approchait son fauteuil de la table. Madame Raquin était heureuse de l'affection de ses chers enfants. Elle avait toujours rêvé de finir comme cela. Elle était redevenue enfant. Elle passait des journées sans ennui, à regarder devant elle, à songer au passé. Elle pensait avoir payé sa part de souffrance. Elle se trompait. Un soir, un effroyable coup l'a écrasée. Quand Thérèse et Laurent oubliaient qu'elle était là, qu'elle les voyait et qu'elle les entendait, ils devenaient fous, apercevaient Camille et essayaient de le chasser. Alors, ils disaient des phrases qui ont fini par tout révéler à Madame Raquin. Laurent, un soir, a eu une sorte de crise, pendant laquelle il a tout dit. Brusquement, la paralytique a compris. Thérèse a cru qu'elle allait bondir et crier, mais non. Ses yeux, si doux d'habitude, sont devenus noirs et durs. À présent, il ne lui restait qu'à mourir. Elle se répétait, « Ce sont mes enfants qui ont tué mon enfant. » Le jeudi suivant, les époux ont été très inquiets. Le matin, Thérèse a demandé à Laurent s'il laissait la paralytique dans la salle à manger. Elle savait tout. « Bah !» a répondu Laurent. « Elle ne peut pas remuer le petit doigt. Comment veux-tu qu'elle parle ?»« Elle trouvera peut-être un moyen. Depuis l'autre soir, je lis dans ses yeux une pensée implacable. » « Tu verras, tout ira bien. » Madame Raquin, depuis qu'elle connaissait l'horrible secret, attendait cette soirée. Elle avait réuni ses forces pour dénoncer les coupables. Comme elle savait que sa langue était morte, elle avait décidé d'essayer un nouveau langage. Pendant la soirée, par la puissance de la volonté, elle a réussi à soulever légèrement sa main droite de son genou où elle était toujours étendue. Puis elle l'a amenée le long d'un des pieds de la table qui se trouvait devant elle, et a réussi à la poser sur la table. Là, elle a agité les doigts pour attirer l'attention. Quand les joueurs ont vu cette main de morte, blanche et molle, ils ont été très surpris.
Hé, regardez donc, Thérèse, a crié Michaud. Madame Raquin agite les doigts. Elle désire sans doute quelque chose.
Thérèse n'a pas pu répondre. Les deux meurtriers attendaient, terrifiés. Madame Raquin a allongé un doigt, replié les autres, et avec difficulté, elle a dessiné des lettres sur la table.
« Parlez, ma vieille amie !» a dit Michaud.
« Ah, bien !» a dit tout à coup Olivier. « J'ai lu cette fois. »« Elle vient d'écrire votre nom, Thérèse. »« Voyons, Thérèse est... Terminé, cher ami !»
Thérèse a failli crier d'angoisse. Laurent s'était levé violemment. Madame Raquin écrivait toujours, d'une façon de plus en plus hésitante.
C'est parfait, je lis très bien, a continué Olivier. Votre tante écrit vos deux noms, Thérèse et Laurent.
La vieille dame a fait des signes d'affirmation en jetant sur les meurtriers des regards noirs. Puis elle a voulu terminer. Mais ses doigts se sont raidis. La paralysie remontait lentement le long de son bras. Elle s'est dépêchée. Le vieux Michaud a lu à haute voix.
« Thérèse et Laurent ont... »
Et Olivier a demandé.
« Qu'est-ce qu'ils ont, vos chers enfants ?»
Les meurtriers, terrifiés, ont failli terminer la phrase à voix haute. Mais tout d'un coup, la main de la vieille a glissé et est retombée le long de son genou. La paralysie était revenue.
« Il est certain, » a dit le vieux Michaud, que Madame Raquin a voulu remercier ses enfants.
La paralytique regardait sa main, désespérée.
Sa main venait de la trahir. Elle a baissé les paupières, se sentant inutile à présent. Depuis 2 mois, Thérèse et Laurent étaient très angoissés. Ils souffraient l'un par l'autre. Alors, la haine est montée lentement en eux. Elle devait forcément arriver. Ils s'étaient aimés comme des brutes, avec passion, puis leur amour avec le meurtre était devenu de la peur, et leurs baisers les avaient terrifiés. Aujourd'hui, ils ne se supportaient plus. Ils se faisaient des reproches sanglants, ils essayaient de moins souffrir en criant. Chaque soir, une querelle éclatait. Un plat trop chaud, une fenêtre ouverte, une simple observation suffisait pour les pousser dans des crises de folie. Et toujours, à un moment, ils parlaient du noyé. Ils finissaient par se reprocher mutuellement la noyade. C'était des scènes affreuses, des coups, des cris. Madame Raquin les écoutait. Elle était là, dans son fauteuil, les mains sur les genoux, la tête droite, la face muette. Pendant qu'ils s'accusaient l'un l'autre de la mort de Camille, la paralytique ne les quittait pas des yeux. Une joie luisait dans ses yeux quand Laurent levait sa large main sur la tête de Thérèse. Puis Thérèse, épuisée par la peur, a commencé à pleurer le noyé devant Madame Raquin. Elle posait sa tête sur ses genoux, lui baisait les mains et parlait. « Nous avons été bien cruels de nous attaquer à ce bon cœur qui n'avait jamais de mauvaises pensées. »
« Il était bon, oui, je sais, » disait Laurent. « Tu veux dire qu'il était bête, n'est-ce pas? Tu as donc oublié? Tu disais que ses paroles t'énervaient.
Tu ne connais rien au cœur des femmes, Laurent. Camille m'aimait, et je l'aimais. »«
Tu l'aimais? Ah, vraiment? C'est sans doute parce que tu aimais ton mari que tu m'as pris pour amant. Oh, je sais pourquoi tu m'as aimé, moi. Tu avais besoin de bras forts. Je l'aimais comme une sœur. Il était noble et généreux, et nous l'avons tué. Mon Dieu! Mon Dieu !»
Laurent, furieux, se précipitait sur elle, la renversait par terre et la serrait sous son genou, le poing en l'air.
« C'est cela !» criait-elle. « Frappe-moi ! Tue-moi ! Jamais Camille n'a levé la main sur moi ! Mais toi, tu es un monstre !»
Toute leur querelle se terminait par des coups. Parfois, Laurent donnait, comme les enfants, des coups de pied dans les murs. Il cherchait quelque chose à casser. Cela le soulageait. Il avait une haine particulière pour le chat tigré François, qui dormait sur les genoux de l'impotente. Le chat le regardait avec de gros yeux ronds. Laurent, en fait, avait peur de François. Un soir, François a regardé si fixement Laurent que celui-ci a ouvert la fenêtre et a pris le chat par la peau du cou. Madame Raquin a compris. 2 grosses larmes ont coulé sur ses joues. Laurent a jeté le chat contre le mur d'en face. Pendant toute la nuit, la misérable bête a poussé des miaulements affreux. Cette nuit-là, Madame Raquin a pleuré François presque autant qu'elle avait pleuré Camille. Thérèse, elle, a eu une crise de nerfs. Thérèse est devenue sombre. Elle n'embrassait plus Madame Raquin. Elle sortait beaucoup, jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine, et rentrait tard. Laurent faisait la même chose. Mais un jour, ils ont compris que la débauche ne servait à rien. Ils ont arrêté de sortir. Ils ont retrouvé la vie commune et leur haine est devenue de la rage. Les querelles ont recommencé. Les coups, les cris duraient toute la journée. À la haine s'est ajoutée la méfiance. Ils avaient peur l'un de l'autre. Chacun pensait que l'autre allait tout dire au commissaire de police. Alors ils se battaient. Dans leur colère, ils criaient qu'ils allaient tout raconter. Du matin au soir, ils s'espionnaient. Laurent ne quittait plus le logement et Thérèse ne le laissait plus sortir seule. Cela ne pouvait plus continuer. Alors, Thérèse et Laurent, chacun de leur côté, ont pensé à un nouveau crime pour effacer leur premier crime. L'un d'eux devait disparaître pour que l'autre soit tranquille. Tous deux ont pensé en même temps à une séparation éternelle. Laurent a décidé qu'il tuerait Thérèse parce que Thérèse pouvait parler et qu'elle était la cause de ses souffrances. Thérèse a décidé qu'elle tuerait Laurent pour les mêmes raisons. Laurent avait rencontré quelques semaines avant un de ses anciens camarades de collège qui travaillait chez un chimiste. Ce camarade lui avait fait visiter le laboratoire où il travaillait. Un soir, Laurent, en regardant Thérèse boire devant lui un verre d'eau sucrée, s'est souvenu qu'il avait vu dans le laboratoire un petit flacon de poison. Son ami lui avait dit que ce poison ne laissait pas de traces. C'était le poison qu'il lui fallait. Le lendemain, il a rendu visite à son ami et pendant que celui-ci avait le dos tourné, il a volé le petit flacon de poison. Le même jour, Thérèse a profité de l'absence de Laurent pour faire limer un grand couteau de cuisine qu'elle a caché dans un coin. Le jeudi qui a suivi a été très gai. La paralytique n'avait plus essayé de révéler aux invités ce qu'avaient fait les époux. Devinant la crise qui allait éclater un jour ou l'autre, elle attendait. Des invités sont partis. Avant de coucher Madame Raquin, Thérèse et Laurent avaient l'habitude de ranger la salle à manger et de préparer un verre d'eau sucrée pour la nuit. Thérèse s'est levée et a pris la carafe. « Laisse !» a dit son mari. « Je préparerai le verre d'eau sucrée. Occupe-toi de ta tante. » Il a pris la carafe des mains de sa femme et a rempli un verre d'eau. Puis, tourné à demi, il y a vidé le petit flacon de poison en y mettant un morceau de sucre. Pendant ce temps, Thérèse avait pris le couteau de cuisine et cherchait à le glisser dans une des grandes poches de sa ceinture. Au même moment, ils se sont regardés. Thérèse a vu le flacon dans les mains de Laurent et Laurent a vu le couteau entre les plis de la jupe de Thérèse. Ils ont compris. Madame Raquin sentait que le dénouement était proche et les regardait avec des yeux fixes. Brusquement, Thérèse et Laurent se sont mis à pleurer. Ils ont échangé un dernier regard, un regard de remerciement, en face du couteau et du verre de poison. Thérèse a pris le verre, l'a vidé à moitié et l'a tendu à Laurent, qui a bu l'autre moitié. Cela a été très rapide. Ils sont tombés l'un sur l'autre, trouvant une consolation dans la mort. La bouche de la jeune femme a touché sur le cou de son mari la cicatrice qu'avaient laissée les dents de Camille. Les cadavres sont restés toute la nuit sur le sol de la salle à manger. Et pendant près de 12 heures, jusqu'au lendemain vers midi, Madame Raquin, immobile et muette, les a regardés à ses pieds.